Mais qu'est-ce que c'est ça?
Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde! Hey, ça fait longtemps. Écoute, Tristan, il s'est passé tellement de choses dans les deux derniers mois. La vie s'est mise dans notre chemin de tellement de fois avec tellement de choses différentes. Ça pourrait quasiment faire. Écoute, je pense que la saison 6 de Dossier bizarre pourrait être 22 épisodes qui parlent de la finale de la saison 5 sur comment ça s'est passé et comment on a eu des obstacles avant de réussir à la faire. Écoute, ça a été feu de forêt, panne de d'Internet, on a eu des pannes de courant, on a eu un pont qui s'est brisé, qui a comme paralysé une partie du Québec au complet parce qu'on a un lien là, sur la Côte-Nord à partir un peu dépassé Québec, quand on arrive plus vers Sainte-Catherine, il y a un chemin pour la Côte-Nord qui fait quand même là, de plusieurs centaines de kilomètres. Et si ce chemin-là n'est pas disponible, à partir du point où c'est brisé, et tout ce qui se trouve à l'est de ce point-là se retrouve complètement isolé du reste de l'Amérique du Nord. On n'a comme plus de liens terrestres. Ça devient difficile. Ça devient des liens aériens, des liens maritimes. Fait que ça a été un problème, ça aussi. Là, on enregistre. On est le 25 aujourd'hui.
25 juin.
Ben oui, 25 juin. Et le Québec est sous la fumée. Ça sent le feu de camp partout dans la province. C'est particulier. Là. On a un printemps et un début d'été assez spécial. Mais là, on s'était dit, écoute, faut qu'on finisse la saison, ça n'a pas d'allure, il arrive tout le temps quelque chose. Là, on trouve un moment, si on a de l'Internet puis de l'électricité, on fait l'épisode. Alors, on va faire deux épisodes aujourd'hui, Tristan, on va en enregistrer deux, et ça va être l'épisode 24 et 25. On va s'être rendu à 25 tel que promis, et ce sera notre grande finale, comme l'année passée, en fait, deux sujets qui sont lancés en même temps pour terminer la saison.
Ah ben oui, puis moi, ça m'a inquiété, hein, sache-le, je t'ai écrit quelques fois pendant le chaos sur la Côte-Nord, on entendait vraiment les nouvelles partout au Québec, là, le Journal de Montréal, les gros journaux, les gros médias, tu voyais des images de Havre-Saint-Pierre, de Sept-Îles, la Côte-Nord, qui est très éloignée, puis plutôt méconnue quand même dans le grand public au Québec, oui. Havre-Saint-Pierre, c'est pas à tous les jours qu'on entend parler du village, puis là, je voyais des images à tous les jours à la télé. Puis on nous disait ça, là, ah, tu sais, le maire qui disait, on a du pain, on attend une livraison de lait par l'avion, là.
Ah, c'est fou pareil, hein?
C'est grave, là, vous avez vécu un semblant de fin du monde.
Ah oui, on a vécu un moment là, apocalyptique là, d'avoir de la difficulté à avoir des denrées de base. Pas drôle, là, je veux dire, en 2023, quand le maire va aux nouvelles pour dire, bonne nouvelle, on a eu 14 pains. On a réussi à avoir aussi 22 litres de lait. C'était vraiment ça. Il y a l'essence aussi. On n'avait pas vraiment pensé à l'essence au début. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « On fait comment mettre du gaz? » Je suis comme « Oh non, c'est vrai, il faut penser à ça aussi. » Alors ça a été un drôle de moment. Et tout ça s'est succédé. Là. J'ai été très malade. Puis après ça, ben là, c'est tous les événements sur lesquels on n'a aucun contrôle qui sont arrivés là, un à la suite de l'autre. Et ça se poursuit là, parce que bon, les feux de forêt, là, c'est absolument apocalyptique cette année. Et là, toi, t'es à Montréal. Les feux de forêt, là, les plus près, sont quand même à plusieurs centaines de kilomètres de la ville de Montréal. Mais ce matin, les gens de Montréal se lèvent et la qualité de l'air à Montréal actuellement, au moment où on enregistre, c'est la pire qualité d'air sur la planète actuellement. C'est fou, là. Et les feux sont quand même très loin, là. Fait que c'est spécial comme situation.
On en parlait un peu hors micro avant le podcast, mais rapidement, faisons quand même un 5 minutes d'intro pour parler de ça. Mais rapidement, là, je revenais de l'épicerie de Jason, puis j'étais essoufflé. La marche pour me rendre à l'épicerie, là, c'était étourdissant puis essoufflant. Puis même qu'on ne voit pas là, à peu près un kilomètre au loin, c'est vraiment. Puis c'est pas du smog ni des nuages. Non, c'est de la boucane.
C'est vraiment de la fumée. J'ai mis une photo sur la page Facebook de Dossier bizarre. C'est une photo qui a été prise à 8h jeudi matin à Havre-Saint-Pierre. Écoute, on dirait que c'est la nuit, mais qu'il y a une espèce de lumière orange foncé là, quelque part qui éclaire le décor. Alors que c'est à 8h le matin, là. Il fait clair à 8h le matin. Mais le soleil est tellement caché par la fumée que ça a mis une espèce d'aura complètement orangée, très foncée. Partout. Alors, c'était complètement hallucinant. Jeudi matin, j'étais en onde à 8h et j'ai fait une pause à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. Faut que j'aille voir ça. C'était irréel, totalement irréel. Ah, oui. Et ça se poursuit. Puis là, ben, aujourd'hui, là, l'impact commence à se ressentir encore plus loin au sud de la province.
Oui, absolument. Absolument. On se croirait dans les films là, de science-fiction, de Terminator.
Il y a quelqu'un qui m'a fait une bonne blague, Tristan. T'es un grand cinéphile.
Oui.
Dans les films américains, quand il y a un flashback ou une partie de l'action qui se passe au Mexique, qu'est-ce qu'ils font? Tout est orange, tout est jaune au Mexique dans les films américains. Fait que mon collègue est arrivé jeudi matin et il dit « Ben, coudonc, on est rendu au Mexique. »
C'est bon. Mais c'est ça, vaut mieux un peu en rire. Aujourd'hui, c'est ça, c'était essoufflant comme fin de printemps.
Ouais.
Fait qu'on se met sur pause et on en profite pour relaxer et parler de dossiers bizarres aujourd'hui. Ça fait du bien, Jason.
Absolument. Alors... peu importe là, ce qui se passe actuellement, ben, on va y aller avec notre finale de la saison 5. Ça va nous permettre de reprendre notre souffle et de repartir avec la saison 6. Je remercie les gens qui continuent de nous écrire, qui continuent à contribuer, qui continuent à nous envoyer des suggestions de sujets. C'est, écoute, la preuve qu'on vous écoute, là, la grande finale, c'est deux sujets et c'est deux sujets qui ont été suggérés par des fans. Alors, on finit la saison avec des suggestions d'auditeurs.
Exactement! Wouhou! On s'amuse! C'est le fun! Donc, j'ai bien hâte de vous parler de ça. J'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Là, ça va sortir. J'ai mon fil conducteur devant moi, mais j'ai super hâte parce que je vous le dis, Jason, là, ce que tu vas voir, mais il y a des liens à faire avec quelques épisodes qu'on a fait. On parle. Mon dernier sujet, c'est une créature, Jason.
Ben oui, on retourne chez les cryptides.
Oui. Alors, on y va? On se lance?
Ben oui, allons-y. Alors, tu nous présentes notre compagnon pour la prochaine heure.
Exactement. Alors, c'est une suggestion d'une fan qu'on remercie. Alors, le sujet, c'est le rake.
Le rake.
Le rake, qui veut dire râteau en anglais.
Ben oui!
donc, j'ai fouillé, là, un matin, pas mal. J'ai pas trouvé pourquoi ils ont décidé de l'appeler le râteau. Mais ça vient des États-Unis, Jason, en 2003. Ce sont des fermiers, des citadins, des gens de la campagne de New York qui ont observé là, ce phénomène, cette créature en 2003. Puis c'est eux qui ont décidé de nommer cette créature le rake. Donc,
okay.
On sait d'où vient le nom, mais on ne sait pas pourquoi ils l'ont appelé le rake.
Hey, on salue Valérie Roy, qui est l'auditrice, la fans, qui nous a envoyé la suggestion du rake. C'est très drôle parce que t'as regardé les messages, j'ai regardé les messages, chacun de notre bord sans qu'on se parle. J'ai vu sa suggestion passer, je l'ai remercié, j'ai dit hey, « il a l'air sympathique, le monsieur, parce qu'il n'a vraiment pas l'air sympathique ». Et c'est ça, donc je l'ai remercié là, pour sa suggestion, en sachant très bien que les cryptides, c'est toujours... Ils ont une petite place spéciale dans notre cœur, les cryptides. Fait que de voir que tu l'as pris en même temps que moi, ou sensiblement en même temps que moi, puis tu as décidé d'en faire ton sujet là, pour aujourd'hui, ben, oui. C'est le fun. J'ai bien hâte de savoir le rake, qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Ben, on va mettre la base. Donc, c'est une légende, Jason. C'est une légende urbaine. Hein. Donc,
okay.
Je tiens à le dire, là, c'est pas comme, mettons, le Kraken. C'est une légende urbaine qui vient d'Internet, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est pas comme le Kraken, que c'était des écrits hein, qu'on retrouvait dans des livres, dans des ouvrages autrefois par des pêcheurs qui avaient écrit, puis tu voyais le nom du pêcheur, la date. Bon, on voit que le Kraken, ensuite, ces écrits-là ont été transmis sur Internet, on a et tout. Le Bigfoot, ça vient de l'origine, c'est autre chose. On peut penser là à le Wendigo, hein, ça c'est des origines autochtones.
Oui.
Donc le Wendigo, ça vient pas des écrits, ça vient pas d'Internet, ça vient des Autochtones de l'Amérique du Nord, c'est eux qui en parlent à travers la parole, donc, de génération en génération. Mais le rake, c'est un qu'on appelle là, un creepypasta.
Oui.
Donc, les fameuses créatures, les gens urbaines qui viennent d'Internet, mais qui sont quand même peut-être véridiques. T'sais. Donc, c'est une légende urbaine qui vient du web. Donc ça, il faut vraiment le dire. Ça a commencé là, dans les années 2000, au début des années 2000, Jason. C'est là que le rake apparaît vraiment là, sur la grande toile du web. Et il faut aller en 2003. Mais avant, juste petite parenthèse, Jason. Moi, là, c'est la créature qui me fait le plus peur de toutes les créatures qu'on a couvert.
Et pourtant, on en a fait plusieurs, là.
Oui.
Puis il y en a eu quelques-unes, là. T'as parlé tantôt du Wendigo. C'est quand même. Il est dérangeant un petit peu. On a eu le Skinwalker aussi qui est très dérangeant. On en a eu plusieurs, là, des créatures qui sont un peu dérangeantes. On en a eu d'autres des drôles, là, comme l'homme grenouille, le croque-mitaine. On en a eu quelques-unes comme ça, mais il y en a eu des dérangeantes. Alors, tu me dis que le Rake, c'est celui qui te dérange le plus.
Oui, parce que il y a des gens qui disent que, sur Internet, on espère que vous n'allez jamais croiser le Rake parce qu'il y a des témoignages qui disent que si vous le croisez, ça pourrait ruiner votre vie.
Oh.
Vous allez peut-être devenir fou et voire même vous suicider.
Oh, OK, c'est du gros stock, là.
Ouais, donc j'espère que vous n'allez pas croiser le Rake dans votre vie parce que véritablement, de ce qu'on comprend des témoignages, les gens qui l'ont croisé là, ont vécu un traumatisme intense, Jason. Alors, allons-y, 2003, on est dans le secteur rural de New York City. Alors, on sort de la ville, on est en banlieue, c'est plus campagnard. Et dans les médias locaux, en 2003, on commence à voir apparaître là, des petits articles. Donc, ça ne fait pas la une. Mais des petits articles où on voit « rencontre avec une créature ». Les témoignages se multiplient et on voit des fermiers, des gens qui travaillent à la campagne, des gens de la banlieue qui disent avoir observé une créature.
Une créature étrange.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là, ces témoignages-là? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ces articles locaux là, de l'État de New York en 2003? On va commencer par décrire la créature.
De quoi il a l'air, donc, le Rake? Parce que moi, j'ai vu une image très, très, très là, sombre, avec pas beaucoup de détails, qui nous a été envoyée par la personne qui a fait la suggestion. Déjà, en partant cette image-là, fait comme « Oh! OK, t'as minute, j'ai pas envie de le voir dans le corridor, lui, à 3h du matin, dans l'enfer pipi, mettons. C'est pas quelque chose qui me tente. »
Il fait peur. Imaginez, là, vous marchez dans le bois la nuit, OK, où vous êtes en train de faire cuire de la nourriture sur votre barbecue tard, le soir à 9h, par exemple, puis il fait noir. Là, vous entendez quelque chose dans les buissons. Vous retournez, puis vous distinguez une forme humaine qui semble marcher à quatre pattes, grande, mince, la peau blanche, des yeux globuleux noirs, phosphorescents, donc qui illuminent lorsque la lumière, un peu comme les félins.
Oui.
Un corps squelettique, Jason. Quand il se déplace, là, le Rake, on dit que ça ressemble un peu à la fillette de l'exorcisme. Ou c'est vraiment une sorte de zombie ghoul qui marche à quatre pattes.
Le cercle aussi, hein, le film, le cercle, là, avec quand on regarde la vidéo, après 7 jours plus tard, le téléphone sonne puis on meurt. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là.
Je l'ai pas vu.
Une jeune fille dans un puits qui a été jetée dans un puits, puis là, ben, elle hante tout le monde qui regarde un vieux vidéo, là, une vieille cassette vidéo. Mais justement, elle se déplace comme tu le décris, là, à quatre pattes, un peu saccadée. Ça fait un peu insecte, je trouve, cette manière-là de se déplacer. Je sais pas pourquoi j'associe ça aux insectes, mais dans ma tête, c'est ça. C'est une démarche d'insecte, je trouve.
Ouais, tout à fait. Ça ressemble un peu à ça. On peut imaginer aussi un crabe, hein, qui se déplace de côté.
Oui.
Il faut voir un corps, on dit un corps désarticulé complètement, donc qui est capable peut-être de passer son épaule, son avant-bras dans le sens contraire de l'articulation normale. T'sais. Donc ça, c'est dégueulasse, là.
C'est dérangeant voir ça, hein? Notre cerveau. Il fait comme « Ah! Non! Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? » Puis c'est pas normal que son bras, il plie dans ce sens-là. Puis on dirait que même si c'est pas visuellement, là, tu sais, c'est pas de l'horreur, c'est pas du sang, c'est pas des tripes, mais malgré ça, notre cerveau a un gros malaise avec ça. Puis c'est pas quelque chose de visuellement dégueulasse, mais en même temps, ça a cet effet-là dans notre tête. Quand quelqu'un bouge d'une manière qui n'est pas naturelle, que ses membres plient dans des sens pas normaux, c'est notre cerveau, il capote bien raide. Là. Il fait comme « Ah non, je veux pas voir ça! » C'est à ce point-là.
Ça crée une émotion dérangeante.
Oui, absolument.
On se sent pas bien. On se sent pas bien.
Non, pas en tout.
puis en fait, là, si je regarde, il y a tout d'autres éléments. Des corps désarticulés, bon, on se déplace à quatre pattes comme un animal. C'est pas mal ça, là. Je pense qu'on est capable de l'imaginer quand même pas pire avec cette description. Et vraiment, faut se rappeler aussi humanoïde, hein. Donc, tu sais, c'est pas comme le Dogman, là, où c'est une tête de chien. Non. Il y a vraiment une tête d'humain, mais squelettique, yeux globuleux, peau blanche. Voilà.
Donc, voici notre Rake. un corps humain, mais très maigre, très blanc, avec des yeux lumineux, qui bouge d'une manière qu'aucun humain peut bouger.
Exactement, exactement. Alors, les gens disent l'avoir vu en 2003 dans les témoignages. Là, les gens disent, on l'a vu, ça s'est promené dans le buisson à côté de la maison. Les gens disent l'avoir vu souvent dans les forêts, parfois dans les campagnes et des fois à l'intérieur de la maison.
Dans la maison?
Alors, mais ça, j'y reviendrai.
Oui, okay.
J'y reviendrai. Mais là, les témoins s'organisent, Jason, parce qu'en 2003, à New York, ce qui s'est passé, ça n'a pas fait la une, ça a disparu. Les gens ont dit, bon, gars, c'est des fous. Hein. Ils ont imaginé ça. Fait que ça disparaît rapidement dans les journaux. Les journalistes, bon, passent à d'autres sujets. On tourne la page. Mais les témoins, eux, ils se disent, mais là, nous, on l'a vu. Donc, il y a quelques témoins qui disent s'organiser là, pour faire des propres recherches, leurs propres recherches, donc pour essayer de trouver d'où ça vient, cette créature. Et de 2003 à 2006, ils vont trouver d'autres histoires similaires aux quatre coins de la planète. Et il y a plusieurs témoignages qui vont retenir l'attention, Jason, des témoignages qui proviennent du web. Puis malheureusement, c'est ça l'affaire. Là. C'est un peu comme d'où le creepypasta. Là, on ne sait pas trop d'où ça vient, ce témoignage-là. Il a été perdu. Il y a des articles qui ont été détruits. Donc, la source véritable des témoignages, malheureusement, on ne peut pas la trouver.
Fait qu'en gardant cette espèce d'ambiguïté-là, ça n'a comme pas le choix de nous faire dire, ben c'est peut-être vraiment arrivé, je sais pas moi, mettons au 19e siècle, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui a vu quelque chose, puis ça a vraiment été répertorié, mais on a perdu les sources réelles de ce témoignage-là, alors que peut-être que ça n'a jamais existé, ce témoignage-là, puis il y a quelqu'un d'habile qui a réussi à l'introduire dans la légende, en faisant quelque chose de très crédible, mais qui n'est jamais arrivé. On ne le sait pas vraiment, parce qu'on n'a pas de source concrète. C'est ça que tu dis, là.
Exactement. Okay. Alors, dans, il y a comme quand même quelques petits indices. Il y en a un témoignage qui est très populaire. On l'a retrouvé. C'est une note de suicide de Jason.
Oh, OK.
Alors, c'est écrit « À ma chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. » Il y avait quelques lettres dans une boîte, dont cette lettre-là d'un homme qui s'est suicidé. Il dit « Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix et regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait subvenir. Je n'en dors plus. Adieu. » Alors, on a cette lettre-là ici, un article de journal très court.
Attends, la note de suicide, Tristan, est-ce que je peux te dire à quoi, moi, ça me fait penser d'emblée, vite de même?
Oui, vas-y.
Paralysie du sommeil.
Le Shadow People.
Ben, ça ressemble à ça. Hey, ben oui, bon, je retiens ce que tu as dit, là. Je me suis réveillé, je l'ai vu une fois, je l'ai entendu. Je ne suis plus capable de dormir par peur de ce que je vais voir quand je vais me réveiller. Ça ressemble à un témoignage de quelqu'un qui fait de la paralysie du sommeil, mais que personne n'a jamais vraiment pris en charge. Il n'y a jamais personne qui a dit « Écoute, ça va bien aller, il n'y a pas de danger, c'est de la paralysie du sommeil que tu fais, on va essayer de régler le problème. » Mais c'est en quelle année, ça? Parce que c'est, à une certaine époque, la paralysie du sommeil, ça n'existait même pas comme diagnostic. Là.
En 1964.
Ah, ben voilà, fait que c'est pas quelque chose de très récent, ce qui veut dire que c'est peut-être ça, puis la personne a mal interprété, malheureusement, puis ça l'a mené à son suicide.
Tout à fait. Puis là, tu vas voir, le prochain témoignage, Jason, c'est exactement, là, tu vas voir, il y a des liens qui vont se faire. Ça dure à peu près, je dirais, 3-4 minutes de lecture, mais c'est le témoignage qui est repris et lu partout. OK, si vous écrivez le rake, ben, ils vont dire, le témoignage le plus lu, le plus connu, c'est celui-là.
OK.
Pour avancer dans le sujet, il faut qu'on ait en tête ce témoignage-là que je vais vous lire.
OK. Est-ce qu'on a une année pour le témoignage? Est-ce qu'on sait ça date de quand?
2006,
excellent. Fait qu'on, ouais. Je te laisse aller.
Parfait. Alors, narration. Je me mets en mode narrateur. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors, moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, je me fis réveiller. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en profitais pour prendre un peu les draps, mais ça le réveilla. Je m'excusai en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il se tourna face à moi, il sursauta et sortit le pied hors du lit si vite Son genou me heurta presque assez fort pour me faire tomber, puis il m'attrapa sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, je pus voir ce qui a causé cette étrange réaction chez mon mari. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté, ou autre chose. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais plutôt inquiète par son état. À ce point, j'étais sous l'assomption que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible loin du lit, en position fœtale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature fondit sur un côté du lit et rampa rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature resta silencieuse pendant 30 secondes, ou peut-être seulement 5. Ça semblait un moment. À regarder mon mari. Puis la créature plaça sa main sur le genou de mon mari et fuya vers le couloir, vers la chambre des enfants. Je hurlai et fonça vers l'interrupteur de lumière pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il se tourna et me regarda directement, couvert de sang.
Oh!
J'allumai la lumière du couloir et vis ma fille Clara. La créature descendit les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter. C'était le Reich!
Hey boy, OK.
En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles ont filé vite. La police fut aidante d'abord et la presse locale nous a beaucoup pris en intérêt. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a eu une histoire similaire. Nous avons pris contact et avions partagé nos expériences. Ils connaissent encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qu'ils nommaient le Reich. Alors, on poursuit. Cela a pris 2 ans à nous 4 après les recherches et chasses sur Internet ainsi qu'une rédaction de lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Reich. Aucun ne donnait des détails historiques ou suites. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionnée. Un journal de bord n'a juste mentionné que sa rencontre, leur disant de partir de la part du Reich, c'était la dernière entrée du journal. Alors là, on voit que la dame là, continue à faire des recherches. On y va ça avec les 2 derniers paragraphes?
On va y aller avec les 2 derniers paragraphes, parce que jusqu'à maintenant, ça fait froid dans le dos, cette histoire-là. C'est assez... c'est très intense,
vraiment. Il y avait cependant certaines instances où la visite de la créature en était une parmi d'autres avec la même personne. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le Reich nous a visités avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et le laissa enregistrer toute la nuit, chaque nuit pendant 2 semaines. Je scannais scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8 et cela prenait environ 1 heure par jour. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Reich. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu et maintenant je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là, mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur me rappela instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mise en colère. Je n'ai pas revu le règne depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit.
Ouf! OK! Hey! C'est toute une histoire, ça!
À vous, hein?
Hey, boy, OK.
Qu'en penses-tu de cette...
Hey, histoire? Ben écoute, c'est... Ouf!
Ouf, hein?
Parce que, encore une fois, le début, ça ressemble beaucoup à de la paralysie du sommeil. Le conjoint qui se réveille et qui part en panique, là, parce que, bon, il voit une figure, une silhouette au pied du lit. Mais là, c'est parce que ça dégénère à partir de là. Okay. Ça défait un petit peu la théorie de la paralysie du sommeil là, au moment où déjà la femme le voit aussi. Et que là, il y a une interaction là, avec les deux. Et en plus, il va aller attaquer les enfants de la famille. Hey, c'est lourd.
Ouais, tu vois, il y a deux derniers témoignages, tout petits, que je vous fais rapidement, mais tu vois, ça va appuyer sur le troisième, sur celui que je viens de vous lire. Alors, article de journal, traduit d'espagnol, 1880.
Oh, là, on recule loin, là.
Oui, les deux derniers, c'est ça qui est encore plus épeurant. C'est qu'on, selon justement ce qu'on retrouve sur le web, les deux derniers témoignages qui sont sur le REIC, là, c'est très court, mais bref, c'est il y a plus longtemps, donc ce qui fait peur, parce que là, on se dit ça vient pas d'Internet, ça vient d'un témoignage, mais bref, il dit « J'ai fait face à la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus horriblement terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce, sa main mouillée. Je ne dormirai plus. »
OK. En plus, le texte, il... ça sonne vraiment comme quelqu'un qui est traumatisé, qui essaye d'écrire quelque chose, là.
Oui, absolument. Puis, tu vois, le dernier journal d'un marin, 1691.
Oh, t'es encore plus loin,
oui.
Ça.
Oui. Et encore plus court, celui-là, il dit « Il est venu à moi dans mon sommeil, au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation, il m'a tout pris, nous devons repartir en Angleterre, nous devrions pas retourner ici à la demande du REC. »
Oh! OK, puis il l'a nommé en plus.
Ouais.
Oh, OK.
Fait que là, du REIC encore, tu vois. Mais là, le REIC, je me dis là-dessus, peut-être qu'il l'appelait autrement, mais que là, sur Internet, les gens ont changé le nom pour REIC, peut-être, tu sais, mais ça fait quand même froid dans le dos, tu sais.
Ben oui, parce que c'est une combinaison de un cryptide. Il y a beaucoup, ben, encore une fois, hein, les deux témoignages, les deux courts témoignages que tu viens de faire. Et encore une fois, quelqu'un qui lit ça et qui est au courant un peu comment fonctionne la paralysie du sommeil, ça a l'air quand même de ça. Là. Là, on a témoignage là, de 1691 quand il dit qu'il l'a vu au pied de son lit et qu'il a ressenti de drôles de sensations. Quelqu'un qui a déjà vécu de la paralysie du sommeil, c'est pas mal la description de ça. Mais c'est le après, puis c'est le tout ce qu'il y a autour là, qui rend ça plus mystérieux un peu, puis qui fait en sorte qu'on peut pas nécessairement expliquer avec de quoi d'aussi simple qu'un phénomène naturel. Là.
Non, c'est ça. Puis tu vois, après ça, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 2010 à 2023, donc pendant 13 ans, Jason, je dis 2010, mais depuis là, t'sais, le début des années 2000, mais après 2006, en fait. Parce que c'est vraiment à partir de 2006 que ça a pris une ampleur plus phénoménale sur les internets. Mais on a des vidéos, Jason, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait une émission de un moment donné où je te proposais des vidéos
sur
YouTube. On analysait si c'était vrai ou pas, si c'était un montage ou pas. Mais il y en avait beaucoup du REIC dans cette vidéo-là quand même. Je ne sais pas si tu te rappelles la créature du zoo de Roumanie.
Oui.
Le gars qui rentre dans le zoo, puis il entend des bruits bizarres. Et là, il rentre dans une cabane, il y a du monde qui parle, ça crie, puis il tombe sur... Il voit dans une cage une créature qui ressemble beaucoup au REIC.
Oui, effectivement.
Et puis, il y en a plein. Là, souvent, là, les vidéos sur YouTube, si vous écrivez REIC sur YouTube, allez voir ça. Ça fait peur. Là. Moi, j'ai pas peur dans la vie. Je le sais que c'est probablement du montage. Mais la quantité de vidéos qu'on retrouve, sans origine, aux quatre coins de la planète, où tu vois la même créature, que ce soit en Espagne, que ce soit... Un gars qui publie une vidéo aux États-Unis qui dit « Ah, ça date de 2002 avec mes amis, blablabla, on est en train de prendre une bière dans la cour. » Puis là, tu vois vraiment la caméra qui se retourne, tu vois au loin une créature comme qui court à quatre pattes qui ressemble à un rape. Puis là, tout le monde commence à crier « Ah! » Moi, ça me fait vraiment...
Ben, c'est ça qui est fascinant avec ces phénomènes-là, qu'ils soient vrais ou non. Quand il y a une espèce de mouvement comme ça qui commence, c'est que c'est planétaire. Fait que ça rend ça encore plus crédible. T'sais, si c'était tout le temps à New York, puis c'est à peu près tout le temps la même gang, puis tu te rends compte que tout le monde se connaît, puis ils font des vidéos, puis tu te dis, bon, OK, c'est cool, mais bon, c'est une petite gang qui s'amuse. Mais là, c'est des gens de tous les horizons, puis d'un peu partout sur la planète qui font des vidéos qui... ont quand même une certaine consistance. Là, le personnage se ressemble tout le temps, ou la créature se ressemble tout le temps. Puis là, ça fait comme, ben OK, mais C'est correct, là. Il y en a eu à New York, mais là, on est rendu, je sais pas, au Tibet, puis il y en a un, puis après ça, en Afrique, il y en a un autre, il y en a un en Amérique du Sud, il y en a... Fait que ça devient planétaire, là, c'est là que ça devient comme, on dirait que notre cerveau, il fait comme, c'est peut-être pas faux, finalement, même si, bon, comme tu l'as dit, des fois, c'est assez apparent que c'est des montages, notre cerveau a quand même tendance à dire, oui, mais il y en a partout sur la planète, là. Il y a peut-être un ou deux vidéos dans le lot qui sont vraies, et puis là, ben, on commence à se questionner.
Ben, c'est un peu ça qu'on se dit, parce que quand on voit la vidéo, par exemple, du Bigfoot, là, la fameuse vidéo du Bigfoot, il y en a une vidéo.
Oui, il y en a un qui est encore considéré comme étant non concluant au niveau de est-ce que c'était quelqu'un déguisé. On ne peut pas encore le dire hors de tout doute. Ces fameuses vidéos des années 70, là, voyons, je ne me souviens plus du nom des deux explorateurs, là, mais c'est quand même... là. Le vidéo qui est réutilisé à outrance parce que on n'a pas encore réussi à prouver qu'il était faux.
Mm-hmm. Exact. Puis là, on se dit, imagine si le Bigfoot existait, genre, c'est que, en gros, moi je me dis, il y aurait plusieurs vidéos qu'on pourrait voir apparaître de plein de vidéos d'année en année. Puis là, on essaierait de les évaluer. C'est un montage, celui-là, c'est pas un montage. Mais le REIC, c'est ça qui se passe. T'sais, on se dit tout le temps, depuis l'arrivée des cellulaires, on devrait être capable de voir. Les fameuses créatures qu'on dit qu'elles existent, mais qu'en fait, on ne sait pas s'ils existent. Mais le REIC, j'ai l'impression que ça fait un peu ce drôle de phénomène que les gens, ils ont leur selle, sont dans le bois, on voit que la créature se cache. Elle se cache. Ben, mettons qu'elle existe, bien sûr, on s'amuse. Mettons qu'elle existe, on voit qu'elle se cache. Elle sort toujours la nuit, dans le bois, dans les endroits sombres. Donc, c'est difficile de la trouver. Par contre, avec les cellulaires qu'on a dans nos poches, on voit que souvent, même si, mettons qu'on dit que c'est tous des montages, il y a quand même un... Il y a toujours une même base dans la vidéo, c'est soit une personne ou plusieurs personnes qui sont dans la forêt, dans le bois, en campagne, et qui entendent du bruit, qui se retournent, et tu vois pendant quelques secondes la créature. Mais là, je me dis, pourquoi ne pas continuer à filmer?
Ben c'est
pourquoi,
ça.
Pourquoi arrêter la vidéo là?
Oui, puis évidemment, c'est l'argument massue, ça. C'est que tout le monde à cette heure a accès à un appareil photo. Et il peut rapidement prendre des photos ou filmer, puis on n'en a pas plus qu'on en avait avant des vidéos de Bigfoot, et quand on en a, sont tout le temps de qualité absolument épouvantable, donc c'est difficile de déterminer si c'est vraiment un Bigfoot qu'on voit, est-ce que c'est juste une branche, est-ce que... souvent, ça vient défaire un peu l'argumentaire, mais à l'opposé, puis c'est drôle parce que t'amènes le sujet, puis on parle du REIC, il y a plein de vidéos du REIC, et d'emblée, quand on voit des vidéos du REIC ou de n'importe quoi d'autre, on part avec l'idée que c'est faux. Et c'est normal parce que notre cerveau s'ancre dans la réalité. Puis dans la réalité, des REIC, il n'est pas supposé d'en avoir. Fait qu'automatiquement, même s'il y a des vidéos, on part avec le préjugé ou avec l'idée préconçue que le vidéo, il est faux avant même de le commencer.
Oui, puis on est un peu rendu désillusionné. En fait, parce qu'il y a tellement trop de vidéos de tout aujourd'hui qu'on dit que tout est du fake. Là. C'est sur les créatures, c'est sur Internet, parce que c'est une manière de les faire de l'argent. C'est très, très lucratif. Mais le REIC, ça, par contre, c'est quand j'en ai observé quelques-uns ce matin. Puis il y en a quelques-uns là, que je suis comme, ben, sérieusement, celle-là, il m'énerve en tabarouette. Mais en plus, la créature a fait peur. Puis dans les témoignages, les commentaires sur les vidéos, tu peux lire des gens qui disent... Moi, j'ai rencontré le REIC et ça a détruit ma vie. Parce que je l'ai vu, puis il n'y a plus personne qui me croit, plus personne qui veut m'entendre parler du REIC. Il y en a d'autres qui disent, moi, il m'a sauté dessus, j'ai essayé de me débattre, puis il est parti. Puis il a pris la fuite dans les bois, mais j'essaie de compter ça à tout le monde. Ça a ruiné ma vie, les gens pensent que je suis débile, que je suis rendu fou.
Mais ça semble être un point central du REIC, c'est que les gens qui ont eu affaire à lui, il s'est passé des affaires épouvantables dans leur vie qui ont... grosso modo, détruit leur vie. Là.
Oui. On peut faire un petit parallèle avec les premières observations d'OVNI. C'est un peu dans le même buzz que les gens sont intéressés par l'histoire, mais au bout du compte, si les gens ont vraiment vu l'OVNI, t'es poigné avec ça toute ta vie. Là,
c'est ça le problème, là, c'est de se poser la question après, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Puis ça, on revient souvent sur ce thème-là dans nos épisodes parce que ça arrive souvent que On va parler de quelque chose et il y a des gens qui sont convaincus de l'avoir vu ou de l'avoir vécu. Et ces gens-là, souvent, après, leur vie va être définie par ce moment-là où ils en ont parlé, dans le sens que ils en ont parlé, ils ont dit ce qu'ils avaient vu, convaincus de dire la vérité parce qu'eux l'ont vu. Et à partir de là, ben, ils sont automatiquement catalogués comme un conspirationniste, imbécile, un fou, quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui a besoin de soins de santé mentale, quelqu'un qui n'a pas pris ses pellules, quelqu'un qui... Et malheureusement, ces gens-là, souvent, vont comme devenir un peu à l'index de la société à cause de cet événement-là. Fait qu'il y a des gens probablement qui vivent des choses étranges et qui n'en parlent jamais parce qu'ils savent ce que ça va donner dans leur vie d'en parler à quelqu'un.
Exact, exact, exact. Ça fait un peu peur, ce côté-là, là, la genre de frontière entre le réel et le non-réel, mais que si tu vois du non-réel, t'es pogné avec ce vécu-là dans le monde réel.
Oui, ben fait c'est ça.
C'est clair que tu parles la tête, c'est clair que les gens vont te penser un peu fou. Je me dis, moi, j'espère ne jamais croiser de règles dans ma vie.
Ben, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais après? T'sais, c'est comme un phénomène d'OVNI peut être un phénomène scientifiquement très facile à expliquer. Mais comme personne observatrice au sol, ça se peut que moi, dans ma tête, c'est « j'ai vu une soucoupe volante ». Je suis convaincu que c'est une soucoupe volante, puis j'ai bel et bien vu quelque chose dans le ciel. Tu avais parlé de Starlink, hein, quand les satellites se sont enlignés dans le ciel. T'as vu un phénomène et ça t'a interpellé. Et là, tu t'es demandé « qu'est-ce que je fais avec ça? »
Ouais.
Je vais-tu demander à quelqu'un d'autre « garde, viens voir, tu le vois-tu? » Mais là, si mettons que c'est fini, par le temps que je vais le chercher, je vais passer pour un fou. C'est tout ça mis ensemble qui fait que quelqu'un va peut-être éviter de parler d'une expérience qu'il a vécue de peur de se faire mettre une étiquette là, de quelqu'un qui est illuminé et qui est un peu imbécile ou qui croit n'importe quoi. Fait que souvent, ces gens-là, la conclusion, quand on regarde plus loin un peu après les événements, souvent, ces gens-là se sont retrouvés à vivre des choses vraiment pas le fun parce qu'ils ont osé parler d'une expérience qu'ils avaient vécue.
Tout à fait. C'est un bon exemple avec Starlink. Et effectivement, tu vois les gens, deux, trois personnes qui voient Starlink, là, la ligne de satellites dans le ciel de SpaceX, qui ne savent pas ça vient d'où, ben, ce qu'ils vont faire, ils vont se mettre ensemble, ils vont dire « Hey, on va faire nos recherches, on va essayer de trouver d'autres témoignages parce qu'on a tous vu la même chose. » Il y a une ressemblance avec les rakes. Effectivement,
oui.
À New York, on voit qu'il n'y a pas juste une personne, il y a plusieurs personnes qui disent avoir vu cette créature. Donc, c'est là qu'on a un vrai dossier. Là. On tient de quoi? On a plusieurs humains qui disent avoir vu la même chose. C'est ce qui commence à inquiéter et à nous. En fait, on peut se ronger les ongles un peu. On peut se dire,
c'est ça. C'est très humain comme phénomène, ça. Si moi, je vois quelque chose qui n'a pas d'allure, avant d'aller voir le journal, ou d'appeler une chaîne de télé, je vais regarder avec mes voisins. Je vais essayer de me trouver des alliés. Quelqu'un qui va pouvoir dire « Oui, oui, je l'ai vu moi aussi. » Parce que je veux pas être tout seul. Je veux pas être tout seul avec ce savoir-là. C'est un peu ce qui s'est passé à New York en 2006. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a vécu de quoi, qui est en lien avec le Reiki. Et cette personne-là a réussi à trouver d'autres personnes qui avaient vécu des affaires similaires pour se sentir moins seul, mais peut-être aussi pour ajouter une certaine crédibilité à son histoire, c'est de trouver d'autres gens qui ont vécu de quoi de similaire. Et ça, c'est très humain là, comme réaction puis comme comportement.
Mm-hmm, vraiment. Peut-être avant d'aller à la courte pause, Jason, un petit coucou à mes vieux chums avec lesquels je faisais des grandeurs nature, parce que les créatures qu'on ne voulait pas les rencontrer dans le bois, là, c'était des ghouls.
Oui.
Puis les ghouls, ça ressemble un peu à ça, là, le rake, là, t'sais. Sang qui coule par la bouche à quatre pattes, un humain qui veut te manger, là, genre de zombie à quatre pattes. Moi, cette créature-là, là, je te jure, quand j'ai vu que ça existait aujourd'hui, que ça s'appelait le Rake, qui était vraiment, il y avait une créature, tu sais, comme ça, là, qui j'étais genre, ben, elle existe, mon Dieu! J'étais bien content d'en parler. Puis, après la pause, bon, on va essayer de décortiquer. Là. Ça pourrait être quoi, cette créature?
C'est quoi ça? Puis ça vient d'où? Puis écoute, c'est une créature que je connaissais pas du tout. Je te dirais, là, dans ma tête, il y a plein d'affaires qui se passent. Là. Bon, la paralysie du sommeil. Il y a Slenderman aussi, qui a été un des premiers phénomènes Internet là, en lien avec des créatures comme ça. Ça me fait penser à ça un peu aussi. Il y a comme plein de phénomènes comme ça qu'on a abordé ou qu'on n'a pas abordé encore. Mais on dirait que c'est un espèce de mélange de plein de choses, là, cette histoire-là, aujourd'hui.
Absolument. Toi, j'ai comme fait des cool liens qu'on pourrait parler après la petite pause, puis essayer de décortiquer, puis essayer de creuser un peu plus pour s'amuser avec cette créature aujourd'hui.
Excellent. Fait qu'on fait une petite pause, puis on revient, puis on continue à parler du rake.
Le râteau.
Le râteau. On revient tout de suite.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Vivez l'expérience du rasage de près le plus efficace de votre petite existence grâce au tout nouveau rasoir Biquette à 17 lames. 17, 17, 17 lames. Grâce à cette technologie unique de pointe, les 17 lames du nouveau rasoir Biquette interagissent entre elles pour vous offrir le rasage le plus doux, le plus près, le plus incroyable de votre vie. Les quatre premières lames soulèvent le poil. Les quatre autres lames le soulèvent juste un petit peu plus. Ensuite, les quatre suivantes coupent le poil. Ensuite, les quatre autres arrachent la peau. Et la 17e lame gratte l'os pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de poil dans ce coin-là. Oui, le Biquette à 17 lames. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous raser.
Il est conseillé lors de l'utilisation du rasoir Biquette à 17 lames d'être deux hommes adultes pour le soulever. La compagnie Biquette n'est pas responsable des accidents, des maux d'eau ou bien non des coupures qui pourraient chicler partout sur vos murs.
Et nous sommes de retour! On parle aujourd'hui d'une créature mythique. C'est pas vraiment un cryptide rendu là, c'est plus une créature... J'ai quasiment envie de dire d'un univers parallèle où on sait pas vraiment son origine, d'où elle vient. Mais que c'est comme, oui, un peu dans la catégorie des cryptides, mais plus des créatures mystérieuses. Je sais pas comment le dire.
Oui, un peu comme... c'était lesquels, là? Attends, j'ai un blanc de mémoire, on a tellement fait. Les créatures dans la forêt aux États-Unis, là, qui sont comme des fantômes puis qui flottent un peu. Là.
Oui. Je me souviens plus du nom, mais je sais de quoi tu parles, oui.
Bon sang. Mais ça me fait un peu penser... L'origine, tu sais, de la créature, c'est un peu dans le même buzz. Ça vient des internets.
Ben oui!
Des témoignages qui se sont ramassés sur les internets.
Ben, écoute, t'as parlé du Dogman tantôt. Hein. Le Dogman, ça a commencé comme un poisson d'avril avec une chanson et c'est devenu un vrai phénomène de cryptide là, avec les années. Mais à la base, c'est un animateur de radio qui a fait une chanson sous un pseudonyme pour parler d'une créature juste pour avoir du plaisir le 1er avril. Puis finalement, aujourd'hui, le Dogman est reconnu comme un cryptide là, à part entière. Fait que le rake, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu parler, mais il a depuis 2006, là, il a fait sa place aussi dans le palmarès des créatures étranges.
Oui. On va probablement de plus en plus l'étudier parce qu'il gagne en popularité sur Internet en ce moment. C'est un peu le, peut-être, je le comparais un peu au Bigfoot, peut-être, un nouveau Bigfoot de notre époque, là, qui apparaît tranquillement. On commence à se pencher de plus en plus sur cette créature. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ben là, c'est ça, là. On a eu des témoignages, on a vu des choses qu'il a faites absolument épouvantables, mais on n'en sait pas plus, à part une description. Tu ne nous as pas donné grand-chose. Fait que là, est-ce qu'on a des théories? Est-ce qu'on pense que...
On a des théories.
On aurait une provenance? Est-ce qu'on on a une idée de qu'est-ce que c'est?
C'est intéressant parce que j'ai relevé quelques hypothèses. La première, Jason, qui fait beaucoup de sens, mais qui fait aussi très peur, c'est la fameuse hypothèse du « les rakes sont-ils les shadow people? »
OK.
Puis, on se rappelle, bon, ces créatures humanoïdes là, qui nous observent quand on dort, on a fait un épisode là-dessus, qui seraient, selon certains, des êtres véritables se promenant entre notre dimension et une autre dimension. Et que le meilleur moyen pour eux d'entrer en contact avec les humains serait à la frontière entre le réel et le monde des rêves. C'est pour ça que la paralysie du sommeil, hein, quand on se réveille, on sort d'un rêve, là, puis on a comme une transition, on rêve profondément, puis on reste coincé quelques secondes là, juste avant de se réveiller dans une sorte de paralysie du sommeil où on dort encore. Puis c'est là qu'on voit cette fameuse créature, hein, qui ressemble beaucoup au rake quand même.
Oui.
Ouais. Et là, on se dit... amusons-nous, ça se pourrait-tu que certains Shadow People puissent traverser dans notre dimension physique et qu'ils seraient maintenant coincés dans notre réalité, fuyant ici dans les forêts?
OK, fait que ça ferait partie de ces créatures-là qui sont capables de rentrer en contact avec nous de manière relativement temporaire et très courte entre le sommeil et l'éveil, mais que lui serait resté coincé. Fait que je sais pas moi, la personne elle s'est réveillée trop vite puis il a pas eu le temps de retourner dans son monde.
C'est ça.
Fait que là, il fait comme, ah non, faut que je me cache dans le bois. Fait qu'il est parti se cacher.
Oui, oui, oui. En okay. plus, je trouvais ça quand même cool parce que les témoignages sur les Shadow People, ça se ressemble tellement avec le Rake, là, tu sais, au pied du lit, je me réveille, il est là, il m'observe avec ses yeux phosphorescents, un grand corps, des yeux noirs, mais phosphorescents. Fait que là, tu sais, souvent, bref, c'est un peu la même chose que le Shadow People, quand même. Sauf que le Rake, là, c'est vraiment dans le monde réel, puis le Shadow People, c'est dans le monde. Dans une autre dimension. Fait que là, je me suis dit, je faisais des liens dans ma tête, puis j'étais comme, on a quand même une grosse ressemblance, là, je trouvais. Donc, j'ai essayé de trouver une explication de comment le Rake, comment le Shadow People pourrait devenir le Rake. Fait que j'ai comme émis cette hypothèse.
Ben, écoute, c'est moi, dès le début de ton premier témoignage, tout de suite dans ma tête, ça a été, ben, c'est de la paralysie du sommeil. C'était automatique. Fait que je pense qu'on doit pas être les seuls à faire ce lien-là. Et à peut-être voir que les fameux Shadow People, bon, quand on se réveille et on a l'impression qu'il y a une figure, il y a une personne dans la pièce avec nous, serait la même chose que le Rake, mais que le Rake, pour une raison inexpliquée, serait resté dans notre monde.
Ouais, je trouve ça quand même pas pire. Rendu là, ce n'est qu'une hypothèse, Jason, mais il faut faire le lien entre est-ce que les Shadow People, en fait, c'est le Rake. Il y a des liens à faire. Il y a des liens à faire.
Excellent.
Maintenant, l'autre théorie que je vous propose, une hypothèse, on s'amuse un peu aujourd'hui, mais j'ai fait des liens à force de couvrir des créatures. Jason, je m'en viens moi aussi,
cryptologue, cryptozoologiste.
Je m'invente cryptologiste aujourd'hui. Alors, mais oui, on parlait tantôt du... on a mentionné le Wendigo, le Dogman. L'homme grenouille aussi, tu sais.
Oui.
Ben, je trouvais qu'il y avait quand même une ressemblance physique avec le Wendigo. Le Wendigo, hein, on se rappelle, c'est un humanoïde élancé, des grands bras minces, qui se promène dans les forêts, qui essaie de manger des humains. Mais là, il y a juste la tête de cerf là, qui est différente. Là. On parle vraiment de la différence avec le Wendigo, mais il y a quand même des ressemblances. Je me suis dit, tiens, pour peut-être que le Wendigo, en fait, on s'amuse, le Dogman, ou les hommes grenouilles avec leurs yeux phosphorescents, si c'était les Rakes. Et si c'était les Rakes de Jason.
Ben oui.
Le Dogman aussi, on en parle. Le Dogman, c'est grand et lancé. Il y a une ressemblance physique, là, quand même.
Oui, à part la tête de chien puis l'odeur, ouais. Mais ça reste que oui. Dans la description de base, il y a quand même une ressemblance, là.
Fait que là, je me suis dit, ben, regarde, mettons que les Autochtones l'ont observé, les gens qui ont vu le Dogman ont vu une créature étrange dans les bois, les fameux hommes grenouilles. Ben, je me dis, t'as coup que dans le fond, de loin, on s'amuse. C'était tous des rakes, dans le fond, puis qu'on les a décrits d'une manière différente avec les différents peuples sur Terre selon les différentes époques, mais qu'en fait, toutes ces créatures, Dogman, Wendigo, hommes grenouilles et toutes les créatures qui ressemblent un peu à ça, c'était en fait. Le Rake qui est parmi nous.
Ben, c'est ça. Fait que ça serait peut-être un seul type de créature, mais qu'on aurait vu sous différentes formes ou qu'on aurait interprété de différentes manières, mais qu'à la base, ça serait tout le temps le même.
Oui, oui. Donc, il y a cette petite théorie. Sinon, on s'amuse encore. Ben, écoute, Jason, comment se fait-il que ces créatures existent puis qu'on les voit pas? Mais que certaines personnes les voient la nuit, serait-ce parce qu'ils sortent de sous terre.
Aha!
Alors, c'est peut-être un peuple souterrain vivant dans les couches plus profondes de la planète Terre.
Ben ça fait longtemps que ça existe, cette théorie-là. Hein? Les peuples intraterrestres, pour différentes raisons. Il y en a qui disent que c'est ceux qui habitaient Atlantide qui, après la destruction de leur cité futuriste, seraient partis vivre sous la Terre. Il y a toutes sortes de théories comme quoi il y aurait des gens, des civilisations complètes qui vivraient sous l'écorce terrestre. Puis, pourquoi pas, hein? Le Rake,
ben oui,
c'est peut-être
oui.
Un ambassadeur des peuples souterrains
ben,
qui est venu nous voir.
Des éclaireurs. Puis en plus, ça expliquerait pourquoi ils ont la peau blanche.
Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas de soleil dans la Terre.
Exact. Pourquoi ils sortent juste la nuit aussi, c'est ça? Il n'y a pas de soleil sous Terre, donc ils peuvent pas supporter le soleil.
Ah,
alors...
ben ça, j'aime ça.
Ah, hein,
ben oui, j'aime ça.
ils sortent la nuit comme des éclaireurs. Ouais, ça fait quand même beaucoup de liens, beaucoup de liens à faire. Très craintif des humains, hein, dès qu'ils sont aperçus, hop, ils filent puis ils disparaissent.
Ben oui.
Faut pas qu'ils se fassent voir.
Ah! Hey, je l'aime, cette théorie-là.
Ouais, moi aussi.
Ben oui,
moi aussi.
On n'avait jamais parlé des peuples souterrains. C'est une première, là. 116e épisode, on parle des peuples souterrains.
Je pense qu'on tient notre futur épisode de la saison 6.
Il y a de quoi à faire avec ça, mais je trouve ça intéressant parce que, oui, comme tu dis, plusieurs caractéristiques du Ray correspondent à ce que ce serait s'il y avait vraiment un peuple sous la Terre et qu'il venait sur la surface une fois de temps en temps. Ça ferait du sens. C'est sûr qu'il ne viendrait pas quand c'est gros soleil. Ça lui ferait mal aux yeux. Il aurait la peau qui brûle. Alors, il doit venir de la nuit de manière discrète. Puis probablement que leur apparence physique, si ça fait plusieurs générations qu'ils vivent sous la Terre, leur apparence physique est probablement un peu différente de la nôtre parce qu'ils vivent sous la Terre. Les yeux lumineux parce qu'il fait noir sous la Terre puis ils ont développé la capacité de voir dans le noir. Écoute, tout correspond, là.
Ouais, tout de suite. Puis en plus, pour ajouter, la plupart des vidéos sur YouTube, Jason, c'est dans des grottes, c'est dans des tubes, c'est dans des puits, des endroits où, justement, là, tu sais, des trous dans le sol, là, puits,
oui.
Grottes, puis c'est là qu'on rentre dedans, puis qu'on se dit, coudon, dans le fond, c'est-tu un accès, y a-tu un autre accès pour peut-être entrer sous terre, de par ces trous-là, tu sais, puis que là, c'est comme leur porte d'entrée, un peu, là, entre le souterrain puis la terre. Écoute, on s'amuse, mais celle-là, elle fuck.
Oui, non, celle-là, je trouve qu'elle... Elle remplit beaucoup de critères là, qui correspondent au Drake. Là, au Rake, plutôt. Drake. Au Rake. J'aime ça. J'aime vraiment ça.
Ah, c'est cool. Puis, la dernière théorie, Jason, que tu dois t'en douter. Des extraterrestres!
Ah, ben, c'est sûr, les extraterrestres sont toujours
des
là.
Des extraterrestres qui seront là, qui nous étudient depuis toujours, depuis des années, et qui envoient ces éclaireurs, qui peut-être sont des intraterrestres, mais au départ, des extraterrestres! Puis là, ben, bref, on peut s'amuser comme ça, mais sinon, toutes ces hypothèses-là, je me suis amusé un peu avec ça, mais bref, malgré, tu sais, il y a peu de données sur Internet, Jason, quand même, sur le REC, à part tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, là, ça va être difficile d'aller trouver d'autres choses sur le REC, mais quand même, c'est une créature qu'on observe de plus en plus, qui gagne en popularité, on peut se faire notre propre théorie, mais vraiment, je me disais, j'espère, je n'y crois pas vraiment. Je n'espère ne jamais la croiser, parce que si je la croise, je vais clairement, je serai peut-être pas présent pour la saison suivante.
Ben écoute, c'est très, très, très dérangeant comme créature. Il y en a qui sont, on parlait des grenouilles là, de Loveland, c'était drôle, c'était bon, on a quasiment envie d'en croiser une, tu sais, une grosse grenouille avec une baguette magique, là, je veux dire. J'aurais la chance de croiser ça, c'est clair, je fais un selfie avec. Là. C'est comme, hey, la grenouille, bien temps, puis on fait une photo. Mais il y en a d'autres, des créatures qui sont beaucoup plus dérangeantes. On en a vu quelques-unes, et je te dirais que le Rake est pas mal dans les pires qu'on a vus au niveau de... Ça ne tenterait pas, elle. Non. Lui, je ne prendrais pas le temps de le saluer. Ou je pense que je prendrais même pas le temps d'observer comme il faut pour essayer de remarquer des détails. Je vais juste m'en aller.
T'avoues? Ben, tu vois, je me suis posé la question. Je vous partage l'expérience. Imagine que tu la vois. Tu es dans le bois, Jason.
Oui.
Tu vois la créature à comme 6 mètres de toi. Elle te voit, tu la vois, elle part à courir. Puis là, je me suis dit, est-ce que je lui courrais après dans le bois?
Je ne sais pas comment je réagirais.
Ah, je ne sais pas moi non plus.
C'est le genre de situation qu'on ne peut pas vraiment savoir notre réaction si on ne le vit pas. C'est comme, tu sais, il y a des gens qui regardent là, ce qui se passe dans le monde actuellement, puis. Puis souvent, on va voir des situations. Je sais pas moi, à New York, y a quelqu'un qui prend en otage un autobus, là, puis il se passe de quoi, puis là.
Ouais, on
a tout le temps le réflexe de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est dans l'autobus quand ça arrive, hein, d'un passager de l'autobus, puis là, de se dire, ah, oh, moi, j'ouvrirais la sortie de secours, puis je sauterais en bas de l'autobus, puis je me sauverais en courant pour aller avertir les autorités. J'essaierais de maîtriser la personne qui prend en otage. Ben c'est ça, mais en réalité, là, je veux dire, même la personne avec la meilleure intention du monde puis qui a appris le karaté et toutes sortes d'affaires, ça se peut qu'elle arrive dans cette situation-là et qui gèle complètement. Là. On le sait pas, tant que ça nous est pas arrivé, on ne le sait pas comment que ça va se passer, comment qu'on va réagir. Mais honnêtement, voir une créature comme ça, si la créature a peur de moi et elle se sauve, je vais peut-être devenir plus téméraire. Mais ça, c'est dans ma tête. Là. Mais je me dis, ah, ben, tu sais, il se sauve. Fait que, il a peur de moi. Fait que s'il a peur de moi, peut-être que moi, j'ai pas besoin d'avoir peur de lui parce que juste ma présence, c'est suffisant pour me protéger. Hein? Juste le fait que je sois là fait que il a peur, puis il va se sauver, puis il m'attaquera pas, il a peur de moi. Fait que peut-être que je deviendrai plus téméraire. Mais encore là, comme je te dis, moi, ce que je pense, mon réflexe, j'arrive face à face avec ça, même s'il se sauve en courant, moi, je vais me sauver en courant, mais dans l'autre direction.
Probablement que moi aussi, Jason, parce que j'y ai pensé, je me suis essayé d'imaginer cette scène-là. Puis si je cours après, puis je me rapproche, puis là, peut-être que je vais le toucher ou prendre une photo, puis je me sentais vraiment pas bien. Je m'imaginais la scène, là, tu sais, où comme la frontière entre l'horreur, la peur extrême, et en même temps, tu veux une preuve, tu veux montrer ta preuve au monde, un peu comme King Kong, tu sais, quand il y a la légende de King Kong. Ils veulent ramener King Kong.
Oui, ben c'est ça, ils veulent le capturer. Là. Il est aussi épeurant qu'il puisse être, ils veulent le capturer.
C'est ça, ils veulent le ramener à New York, puis ils réussissent à le mettre à New York devant tout le monde et tout. Puis je me disais, je pense que je serais un peu coincé entre les deux. Là. Si je tombe sur la créature, est-ce que je m'enfuis ou si je veux en faire un, justement, prouver au monde entier qu'elle existe et tout. Si tu la vois, bien sûr, dans un monde fictif où on s'imagine ça en contexte, bien sûr, on s'amuse. Mais bref, tu vois, je pense que je suis un peu comme toi. Je pense que je rebrousserais chemin si elle ne m'attaque pas. Mais si elle m'attaque pas, là, je sais pas. Ça serait sur le moment que est-ce que je serais capable de courir après, de prendre un selfie, là, une vraie photo ou une vidéo, ou de dire bonjour, bonjour.
Ben, c'est ça. C'est, ben, t'sais, finalement, t'sais, ça finit que tu as une vidéo de 20 minutes que tu jases avec en prenant un verre, puis que finalement, il est bien chill, puis il est bien fin. Puis, mais c'est ça. C'est, écoute, des créatures comme ça, puis on est rendu en 2023, la science est très avancée, on a exploré le monde, mais il reste des affaires qu'on ne sait pas, des affaires qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas trouvées. Il y a peut-être la science, on ne sait pas tout en science. Il y a des nouvelles découvertes qui vont arriver, qui vont peut-être nous amener à découvrir d'autres choses, à réaliser que notre monde n'est peut-être pas tout à fait comme on le pense. Il y en a peut-être des choses comme ça à un moment donné qu'on va découvrir. Puis, tu sais, il y a des films d'horreur, des films de suspense qui font souvent, qui capitalisent là-dessus, hein, une espèce de monde parallèle qu'on ne voit pas, qu'on ne voyait pas, puis que là, soudainement, quelqu'un fait une découverte scientifique avec un cristal quelconque qui permet de faire des lunettes, puis que là, on voit qu'on est entouré d'esprits, puis de toutes sortes de patentes, puis de... Mais il n'y a rien qui dit que ça n'arrivera pas un jour. Peut-être qu'un jour, on va réussir à avoir améliorer nos sens à un point tel qu'on va voir des choses qu'on n'aurait jamais suspectées qui existaient. On le sait pas, ça va peut-être arriver un jour, et peut-être que toutes ces petites incursions-là de créatures étranges qu'on voit apparaître, qu'on voit arriver, des histoires, des témoignages qui arrivent à gauche, à droite, c'est peut-être tout simplement des gens qui, pendant l'espace d'un moment, ont réussi à voir cette parcelle de notre monde qu'on ne peut pas encore voir. Écoute, il y en a tellement des théories qui peuvent nous expliquer que notre monde n'est peut-être pas tel qu'on le conçoit. On peut faire du millage avec ça, puis c'est le fun là, de se l'imaginer. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? On le sait pas. Bon, les chances sont faibles, mais c'est le fun de s'amuser avec ça, puis de se dire, écoute, on est peut-être dans un monde surpeuplé qu'on ne voit pas du tout.
Oui, c'est ça. Exact. Imagine, c'est un peu ça. On se dit tout en ça. C'est drôle parce qu'on est deux gars très pragmatiques, très terre-à-terre. Mais il y a ce côté pragmatique et terre-à-terre-là qui peut nous proposer l'autre hypothèse, l'autre côté de la médaille, qu'on ne croit moins, on y croit moins, bien sûr, mais qu'on se dit aussi, on est tellement, tu sais, sur la Terre que, d'un coup, que finalement, en ce moment, là, aujourd'hui, 2023, ben, il y a 17 personnes qui ont véritablement vu le Bigfoot.
Ben, c'est ça,
on s'amuse.
C'est ça aussi, être pragmatique, c'est d'être capable d'admettre que, pour l'instant, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Il y a peut-être des choses qui sont présentes et que jamais personne n'a réalisé que c'était là. C'est ça aussi être pragmatique, c'est d'admettre que, écoute, on a beau être terre à terre, on a beau être sceptique face à ces situations-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'admettra pas qu'il y a une possibilité parce qu'on ne sait pas tout encore au niveau de la science, au niveau de notre monde. Il y a encore plein de choses à découvrir, là.
Oui, vraiment. Puis j'ai bien aimé ce sujet-là parce que tu sais, en faisant toutes les créatures, des fois on veut des images et tout. Puis le Kraken, mettons, on peut se l'imaginer dans notre tête avec les films de Jack Sparrow, puis des Pirates des Caraïbes et tout. Mais là, le Rake, les vidéos sur YouTube, moi je vous dis allez voir ça, c'est pour vraiment conclure là, vous mettre les images en tête sans faire de cauchemars. Quoi, vous allez peut-être faire des cauchemars en voyant ça. Peut-être pas montrer à vos enfants. Peut-être
non.
Pas, peut-être pas de
commencez par les regarder, faites un tri de celles qui sont adaptées pour les enfants et celles qui ne le sont pas.
Exact. Ben, je voulais vous partager ce sujet-là. Puis ma peur aussi, Jason, je l'avoue, envers ça. Moi, je pense que même à 30 ans, là, je marche dans le bois. Puis si je commence à penser aux règles, puis je suis tout seul dans le bois la nuit, je vais pas aimer ça.
C'est possible, ça se peut. mais c'est un peu comme ça. Écoute, on est notre pire ennemi dans ces situations-là. Hein. On est comme dans le bois, puis ça va bien. Puis tu sais, on vit dans la nature, on a vécu dans la nature des périodes de notre vie tous les deux. Puis ça me dérange pas d'aller dans le bois quand il fait noir. Tu sais, je veux dire, je suis habitué. Puis. Mais à un moment donné, des fois, on est comme prédisposé. Là. Un soir, on est en camping, on va dans le bois, puis là, on entend un bruit qu'on n'est pas capable d'identifier. Et ce soir-là, on est plus ouvert à la subjectivité. Puis là, ben, notre cerveau, il fait comme « Oh, c'est quoi ce bruit-là? C'est peut-être une bébite qu'on connaît pas. » Et là, ben, on se met à se faire peur nous-autres-mêmes, puis on se crée des scénarios nous-autres-mêmes. Puis même si on est habitué, ça arrive des fois qu'il y a un moment où on est comme moins à l'aise. Puis, tu sais, des fois, on va même le dire. Je sais pas ce que j'ai, mais il me semble, je sais pas, je n'étais pas bien dans le bois. Il y a comme quelque chose qui me dérangeait à ce soir. Puis on est comme pas capable de mettre le doigt dessus. Et ça aussi, ouais, si on s'y attarde, on commence à y penser, ça peut être un million d'affaires, là, tu sais. Ça peut être, t'as vu quelque chose, mais tu l'as pas vraiment vu, c'était du coin de l'œil, puis ton cerveau l'a pas tout à fait enregistré, mais il y a un paquet d'affaires là, qui peuvent expliquer ça. C'est ce qui est le fun avec ces créatures-là, c'est que ça demeure une possibilité parce qu'on peut pas prouver que c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Là.
C'est ça. Exactement, exactement. Il y a peut-être une dernière affaire que je pense, Jason, par rapport à ça. Une bonne scène, une scène de film, tu sais, pour terminer là-dessus, qui nous donne un sentiment exact sur ça. C'est, tu sais, dans Le Signe avec Mel Gibson.
Oui.
Puis au début, là, quand il cherche dans le champ la bébête, la créature, oui. Il y a sa lampe de poche, là, il a le courage, là, il est prêt, puis il avance, puis. Le moment donné, il entend du bruit, puis là, il voit un pied, puis là, oh, il est plus sûr!
Pas non, non, c'est ça, le courage se vide assez vite dans cette scène-là. C'est ça, au départ, c'est ça, c'est qu'il est tellement convaincu qu'il n'y a rien, que ça se peut pas, puis que son frère et ses enfants, ils s'imaginent des choses, qu'il n'est même pas être courageux, c'est qu'il est convaincu qu'il n'y a rien de dangereux, puis qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Et là, quand il commence à avoir des éléments qui montrent que non, il se passe vraiment quelque chose, soudainement, là, le courage, il n'avait pas finalement.
Non, c'est ça.
Il s'en va très vite.
Ah, ben voilà, le rake, que d'ailleurs, on rigolait tout à l'heure, l'origine du mot. C'est-tu parce que ça vient d'où le rake, c'est-tu quand les gens de New York en 2003 l'ont vu, c'était un fermier qui a vu un rake partir avec son râteau, puis il a dit hey, il part avec mon râteau. On va l'appeler comme ça, le râteau. C'était le rake.
Ben écoute, c'est fascinant, puis c'est des créatures comme ça, il y en a tellement, on connaît les grandes créatures, hein, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, les loups-garous, il y en a qu'on connaît, là, qui sont réutilisés dans les films, puis les séries, les dessins animés, mais c'est un monde, là, le monde des créatures, des cryptides, il y en a, écoute, je pense qu'on pourrait faire 10 saisons de 20 épisodes avec juste des cryptides, là. Ça fait 200 épisodes, puis on n'aurait même pas passé au travers. Il y en a plein. Il y en a des fascinantes, comme le Rake, j'en avais jamais entendu parler. Écoute, c'est fascinant de voir que ce phénomène-là est probablement né sur Internet, mais on est quand même capable de trouver des témoignages qui datent de quelques centaines d'années. Est-ce que c'est des vrais témoignages? Est-ce que ça a été inventé pour venir agrémenter la légende? Est-ce que c'est un témoignage qui n'a absolument rien à voir, mais qu'on a récupéré parce qu'il est relativement ambigu? On s'entend, là, les deux vieux témoignages que tu as lus, c'est pas très précis pour le rake. Là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui me dérange, puis là, je veux plus dormir. Ça s'arrête là. Fait que c'est très vaste. Là. Ça serait quelque chose qui pourrait coller à n'importe quoi. Là. Enlèvement extraterrestre, le Bigfoot. Mais on récupère ces témoignages-là. Puis la légende, on dirait qu'elle prend vie d'elle-même puis elle s'alimente elle-même après. Là. C'est ça qui est le fun, parce que dans 10 ans, on va peut-être avoir... écoute, le rake, ça va peut-être être devenu la créature la plus connue de l'Internet avec des centaines de milliers de témoignages. Puis, alors que ça va peut-être rester au stade de créature un peu moins connue comme c'est actuellement.
Exactement. T'as raison, mais c'est vraiment une créature... qui, t'as raison, qui gagne en popularité. J'ai l'impression qu'elle va continuer à gagner en popularité On va bien voir. Puis, je pense qu'un de mes rêves, Jason, c'est que sur un de nos 116 épisodes jusqu'à maintenant, je me réveille un matin puis que pouf, on lit dans le journal. On en a trouvé un! C'est n'importe quel sujet, là. Il y en a au moins un des 116, je l'avoue. J'aimerais ça.
Eh ben oui, un peu c'est plus sûr.
De folie dans la vie, quoi.
Eh
de,
oui.
De se ramasser avec quelque chose d'un peu plus fictif qui atteint notre réalité. Ça serait juste, on est tous des fans de bizarrerie dans ce podcast. Alors, je pense qu'on serait tous contents de ça, mais pour l'instant, ce ne sont que des mystères.
Et voilà. Eh bien, merci, Tristan, et merci à la personne qui nous avait suggéré le sujet, Valérie Roy, qui nous avait suggéré le sujet du rake. Et c'est dans les creepypastas, souvent, il y a des affaires qui vont apparaître. Ça va durer très peu de temps, là. Ça va durer quelques semaines à peine. Ça va être très intense. Puis après ça, on n'en parlera plus jamais. Mais le rake, 2006 à 2023, puis on en parle encore aujourd'hui. Hey, c'est 17 ans, là. Pour un phénomène Internet, ouais. C'est rare que ça ait une durée de vie aussi longue que ça.
Donc, voilà sur le rake que j'espère que vous ne croiserez jamais. Puis si vous croisez, ben essayez de prendre une photo et envoyez-le.
Je vous le souhaite de ne jamais le croiser. Merci beaucoup, Tristan.
Ben merci. Merci à toi. Merci aux dos bizarriens.
Et écoute, on va faire une pause, puis on va faire la deuxième partie de la grande finale là, tout de suite après, avec un autre sujet complètement. On part dans une autre direction, mais on va faire quelque chose que vous aimez. Je vais challenger un petit peu Tristan là, avec le prochain sujet. Alors, je vous invite à l'écouter plus tard la semaine prochaine, dans un mois, ou ben non, tout de suite après celui-là.
Excellent!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Ici José Théodore, l'ancien gardien de but du Canadien. Est-ce que, comme moi, ton plus grand cauchemar serait d'avoir plus de cheveux? Alors, ne crains plus rien grâce à mon nouveau produit, Les Cheveux de José. Les Cheveux de José est un produit 100% original, fait entièrement de Propecia, mais avec ma face sur la bouteille. Grâce aux cheveux de José, tu ne perdras plus jamais tes cheveux, mais tu ne pourras pas non plus aller aux Olympiques. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries.